Bonjour à tous, on reprend aujourd'hui Maseret Irouvin Daf Samechbet. En vérité, on va prendre quelques lignes avant. On reprend le début du sixième Perek, c'est-à-dire qu'on a déjà fait la moitié de la Maseret. On a fait les cinq premiers Perekim et maintenant on commence les cinq derniers. Je ne sais pas quelle est la moitié du verre plein, quelle est la moitié du verre vide, mais en tous les cas, on est bien lancé. Allez, on y va. Adar Imaakum, quelqu'un qui habite avec un non-juif, Bechater. Donc il partage avec lui. Ils sont à deux dans le même endroit, dans la même cour. Ils ont tous les deux une maison qui donne sur la même cour. Ils sont que tous les deux tout seuls. Ou alors, il habite avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la halakha du Hérouv, quelqu'un qui n'accepte pas la Torah orale, puisque le Hérouv est midérabanan. Arezé oser alav. L'idée du Hérouv, en général, c'est que, normalement, on aurait le droit de porter. Pourquoi est-ce qu'on aurait le droit de porter? Sachant que le Khatser est entouré d'un mur, donc il est défini comme un Reshut Echid. Ma maison est définie comme un Reshut Echid, elle donne sur un Reshut Echid, Reshut Echid, Reshut Echid, c'est moutard. Midérabanan, ils sont venus, ils ont dit oui, mais dans ce Reshut Echid qui est associé à plusieurs personnes, en l'occurrence dans notre cas deux personnes, puisqu'il a une utilisation entre guillemets publique, il ressemble à un Reshut Arabim, les gens risquent de se tromper et de comprendre qu'on a le droit de porter dans un endroit public, donc on va interdire tout endroit qui est partagé, qui est utilisé par plusieurs personnes. Donc même si la seconde personne qui se trouve avec moi est non-juive, ou quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la halakha du Hérouv, c'est dans ces deux cas-là, on va définir que la deuxième personne t'interdit de porter, et la seule solution qu'il y aura, qui sera possible dans ce cas-là, c'est de louer. Qu'est-ce que je vais louer? Moi, le juif, je vais aller voir le non-juif, ou la personne qui n'est pas pratiquante dans le terme où elle n'accepte pas l'idée du Hérouv, et je vais lui demander un droit de location, je vais louer sa propriété pendant Shabbat. Bien sûr, il aura encore le droit d'utilisation, mais j'aurai un certain droit qui fera que, à travers ce certain droit, je serai arrivé au même niveau qu'un Hérouv. Quand je fais un Hérouv, je dépose du pain, on s'associe tous. De la même manière, ici, il n'y aura qu'une seule propriété. Je ne parle pas de propriété en termes d'argent, en termes de baalout, d'acquisition de l'endroit, mais de propriété en termes de Hérouv, c'est-à-dire que ça va être suffisant pour la définir comme étant ma seule propriété par rapport au Hérouv, et donc je pourrais porter. Pour que le non-juif puisse interdire l'utilisation de cet endroit, il faut qu'il y ait deux juifs. Alors s'il y a deux juifs, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un non-juif? C'est très simple. Quand on n'a que deux juifs qui habitent ensemble, et on n'a pas fait de Hérouv, ou trois ou quatre ou cinq juifs qui habitent ensemble, on peut chacun pendant Shabbat dire j'annule ma propriété, mon droit de propriété. Encore une fois, on ne parle pas en termes d'argent, mais on parle en termes de Hérouv. Ce qui crée barrage au Hérouv, c'est le fait qu'on est plusieurs. Moi, je me retire, donc je te retrouve tout seul. Donc ce Khatser appartient qu'à une seule personne, c'est pour ça qu'on peut l'utiliser. Ça, c'est ce qu'on peut faire entre deux juifs. Maintenant, on a deux juifs et un non-juif. Les deux juifs, puisqu'ils sont présents, vont être obligés de faire un Hérouv. On aurait pu se suffire de retirer la propriété d'une des personnes. Ça n'existe pas chez un non-juif. Il faudra faire l'utilisation de l'acte de Hérouv, en fait, de la possibilité de porter seulement à travers la location du droit d'utilisation. Et donc, quand on a deux juifs, le non-juif pose un problème en plus. On ne pourra pas se suffire d'un Hérouv. Il faudra faire une location. Amar Rabban Gamliel Maaseh B'Tzedouki Echad. Alors Tzedouki, c'est quelqu'un qui est juif, mais qui ne croit pas au Hérouv, il ne croit pas à la Torah orale. Shayadar Imanu Bemavoy, il habitait dans le même quartier que nous, Bérushalayim. Et Rabban Gamliel était juste après la destruction du temple. Il était le Nassi juste après la destruction du temple. Vermar Lanou Abba, Maharou Veotzi Otakelim. Son père, qui était lui-même le Nassi avant lui, il lui a dit vite, 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 sortez vite les ustensiles que vous avez besoin. Hachiloyotzi Veyesor Alechem. Nous dit Rabban Gamliel, c'est vrai qu'on a parlé d'un kouti dans la Mishnah, comme on verra dans la Gemara. Un kouti, ce sont des gens qui ont fait une conversion et on n'est pas persuadé qu'elle a été bien faite. Je parle d'une conversion historique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les shomronim. Donc on ne sait pas si leur conversion a été faite de tout cœur ou seulement parce qu'ils avaient peur. Et donc on les considère dans plusieurs endroits comme étant des non-juifs. Et en conclusion, au fil des années, on a remarqué qu'ils ne faisaient pas la Torah, donc on les considère comme des non-juifs. Tout ça, c'est ceux qui sont soit non-juifs, soit juifs qui ont fait une conversion qui n'est pas claire. Mais quelqu'un qui est juif, mais qui n'accepte pas la Torah orale, lui, il est défini comme un juif. D'où je sais, mon père, donc le père de Rabban Gamliel, c'était Rabbi Shimon Ben Gamliel, qui lui-même avait un père qui s'appelait Rabban Gamliel. Il leur a dit, pendant, quand vous avez un tzedouki qui est dans le Hézor et que maintenant il a fait l'annulation de sa propriété, donc en fait, il a annulé entre guillemets son opposition au Hérouv. Et c'est ce qui nous permet à faire le Hérouv, mais faites vite, utilisez et sortez ce que vous avez besoin dans le Mavoï avant que lui-même ne vienne utiliser le Mavoï. Et donc, ce qui va se passer quand il va utiliser, c'est qu'il fait entre guillemets réacquisition de ce qu'il a donné, et donc il aura tout annulé. Donc faites vite ce que vous avez besoin de faire avant que lui ne fasse marche arrière. Rabbi Yehuda Amar Belashon Acher, Rabbi Yehuda dit dans cette histoire, elle est un peu différente. Ma'arou v'asut tzorkechem et b'avoy yatchelo yatziv yasor alechem. Faites en sorte que tout ce que vous avez besoin, faites-le avant Shabbat, parce que ça ne sert à rien avec un tzedouki quand il fait le retrait de son droit. Donc d'après la première lecture, avant que lui ne change d'avis, soyez-vous propriétaire, et donc ce retrait de propriété du tzedouki aurait été conséquent. D'après Rabbi Yehuda, le retrait de propriété du tzedouki n'est pas conséquente, et si jamais il annule son retrait de propriété, même seulement après que moi-même j'ai commencé à utiliser le khatser, je ne pourrai plus utiliser le khatser. Donc c'est pour ça qu'il leur a dit, faites tout ce que vous avez besoin avant Shabbat. Il est vrai qu'il aurait pu, ils auraient pu continuer à utiliser le khatser même d'après Rav Yehuda, tant qu'il n'a pas fait de retrait. C'est une remarque que certains font sur Rashi, mais en tous les cas, il leur a dit, d'après Rashi, d'utiliser le khatser avant Shabbat, de peur qu'il fasse l'annulation et fait qu'il fasse marche arrière sur son retrait de propriété. Yativ Abaye Baravin, Rafraïna Baravin. Donc Abaye, fils de Avin, Rafraïna, fils de Avin, apparemment des frères. Yativ Abaye Gabayou. Donc ils étaient assis ensemble. Veyatve Vekamri. Bishlama. Donc ils étaient en train de disséquer notre Mishnah. Bishlama Rabbi Meir et Savar. Dira Takum Shmadira. Je comprends comment est-ce que Rabbi Meir nous dit que quand il y a un juif et un non-juif qui habitent ensemble, alors on considère ça comme problématique en termes de Hérouv. Pourquoi ? La maison d'un non-juif est considérée comme une maison, puisqu'elle est définie comme une maison. Donc, elle est définie comme une propriété à part entière qui va faire qu'on a deux propriétés de deux privés séparés qui se sont associés dans un khatser. Et donc, c'est pour ça que ça crée un problème. Cet endroit est en vérité public, public entre guillemets, puisque c'est public que pour ces deux maisons. Mais je comprends que ça crée un problème en termes de Hérouv. Et là, Rabbi Eliezer ben Yaakov, mais ça va. D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, je ne comprends pas. Ika ça va dire Atakum Shema dira. S'il est d'accord que la dira d'un non-juif est définie comme une dira filouchana menitza, donc même s'il n'y avait qu'un seul juif, ça aurait dû déjà être interdit en termes de Hérouv. Veilosh Shema dira. Et si la maison d'un juif n'est pas définie comme une dira filoutrena melo, même s'il y avait deux juifs, le goy n'aurait pas dû être problématique. Le nitza. Amar le Abaye, mais ça va. Donc eux, ils ont posé la question sur le Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Meir, on peut le comprendre. Rabbi Eliezer ben Yaakov, on ne peut pas le comprendre. Ou la maison d'un goy est définie comme une maison, et donc propriété en plus, et donc propriété publique, et donc Hérouv, ou elle n'est pas définie comme maison, et donc on n'en fait pas cas. Rabbi Meir, Abaye leur dit, ah oui, c'est ça votre lecture. Amar le Abaye, mais ça va, Rabbi Meir dira takum. Shema dira, vous pensez que Rabbi Meir pense que c'est oui défini comme une dira, et pourtant c'est marqué Vatania. La maison d'un non-juif n'est pas est définie comme un enclos d'un animal. Je précise, ce n'est pas une remarque ou une définition. C'est simplement, de la même manière qu'un enclos d'animal ne rend pas cet endroit public, de la même manière, une maison d'un non-juif ne rend pas cet endroit public. Pourquoi ? Il n'a aucune halakha de Shabbat. Ces différences de propriété en termes de Hérouv, ces différences de propriété en termes de Shabbat, chez lui ça n'existe pas Shabbat, on se demande si ça n'existe pas, il n'a pas le droit de faire Shabbat. Donc il n'y a pas, cette différence ne sera pas conséquente quand il y a une maison de non-juif. Et là nous dit la Gemara, Dekoul alma dira takum lo shma dira, behemet, quand un non-juif habite avec nous, ça n'a aucun impact sur la définition du Shabbat. Ve'acha b'gzera shema ilma b'ma'asav. Et ici la machloket elle est quand elle est seulement parce qu'on a peur que le non-juif va apprendre du juif. Le contraire, pardon. Le juif va apprendre du non-juif. Rabbi Eliezer ben Yaakov savar kivan de'akuv rachuv ashfichu damim trei deshriche de daire gazrubeu chad lo shriach lo gazrubei rabbanan v'rabbi meir zimnin de mikre v'daire v'amre rabbanan en iruv moil umkom akum. Donc la Gemara nous explique comme ça. Le risque, c'est le fait d'être assimilé au non-juif. Alors, si tu habites avec le non-juif, donc tu risques d'apprendre de lui. Donc, on a voulu te bloquer, comme ça, tu ne peux pas habiter avec le non-juif. On a voulu te bloquer, comme ça, tu ne peux pas habiter avec lui. Et donc, si c'est quoi la machloquette ? D'après Rabbi Meir, puisqu'il y a un risque que tu habites avec un seul non-juif, donc on va t'interdire, on va te rendre interdit le transport pendant Shabbat quand tu habites avec un non-juif. D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, alors, puisque le risque d'habiter avec un non-juif quand tu habites tout seul avec lui est peu fréquent, et pourquoi ? Parce qu'il y a un risque que vous disputez et qu'il décide de te tuer. Donc, en général, ce n'est pas fréquent. Qu'est-ce qui peut être plus fréquent quand on habite deux juifs avec un non-juif? Là, c'est plus fréquent, on se sent plus en sécurité. Donc, dans ce cas-là, Chachamim aurait interdit d'habiter avec le non-juif. Donc, c'est pour ça que, d'après Rabbi Meir, c'est interdit que quand tu habites avec, même quand tu habites qu'avec un seul juif, avec un seul non-juif. Alors que, d'après Rabbi Ben Yaakov, c'est interdit seulement quand il y a deux juifs qui habitent ensemble. Je le relis dans les mots. Vacha Bekzera, Shema Ilva du Masav. Ici, leur marloquette, elle est est-ce qu'il y a un risque qu'il apprenne, que le juif apprenne du non-juif? Rabbi Ben Yaakov, savoir qu'il va de Ovet Kochavim, Rachul Ashukhodamim, puisque le goy risque de te tuer, Trei. Des shriché, des daïré, gazroubéou, que deux, très c'est deux, des shriché, c'est courant, des daïré qui habitent ensemble, gazroubéou, on leur a interdit. Khad, l'oshriach, mais qu'un juif habite avec un non-juif, c'est peu courant, et donc il n'y a aucun interdit des rabbanan dans quelque chose qui n'est pas courant. Lo gazroubé rabbanan, abimé savar, zim, les demi-crèves d'ailleurs, ça arrive. Amoué rabbanan, en irouv moïl bimkom mekoum, chachamim nous ont dit de ne faire un irouv avec un non-juif, ça ne marche pas. En bitul rechut moïl bimkom akoum, de faire un retrait de propriété, ça ne marche pas. Hachi askir, jusqu'à qu'il vienne demander au non-juif de lui louer l'endroit. Veakoum, l'omougar, et le non-juif ne voudra pas louer. Maïta ama. L'agma va développer une question. Maïta ama. Il est ma michou de savoir dilma telarzouke birchuto. Si c'est parce que pourquoi est-ce que le goy ne voudrait pas louer? Pourquoi pas gagner un peu d'argent à la malo? Si c'est parce qu'il a peur qu'en fur et à mesure, cette personne lui dit, attends, tous les vendredis, elle vient lui louer l'endroit. Il dit, mais en fin de compte, lui, il veut s'approprier cet endroit. Donc, il préfère ne pas lui louer. La Gemara nous dit, c'est vrai, ça je peux le comprendre. Il faut une bonne srirut, il faut une bonne srirut. Mais celui qui dit que même une mauvaise srirut, c'est bon. Comment est-ce qu'il va expliquer? La Gemara explique, avant d'expliquer le fond de la question, elle explique, deitma. Rafris damar srirut bria. La location, ça doit être une bonne location. Rav Shesh nous a dit, une mauvaise location, c'est aussi bon. Maïre ou Maïbria. C'est quoi une bonne location? C'est quoi une mauvaise location? Il est ma bria, si on dit une bonne location, c'est qu'il faut louer au moins la plus petite somme qui a une valeur dans l'argent. C'est ce qu'on appelle une pruta, ça s'appelle une bonne location. Qu'est-ce qui s'appellerait une mauvaise location? Ce qui est moins que un chez pruta. Est-ce qu'il existerait quelqu'un qui dirait que quand on fait un business avec un non-juif, moins qu'une pruta n'a pas de valeur? Et pourtant, on va amener deux preuves. Et vous, Yodin, chez Sochin, Minakoum, Afilou, Baron, chez Pruta. On peut faire une acquisition de location même quand on paye moins qu'une pruta quand c'est avec un goy. La pruta, c'est la somme minimum. Par exemple, pour faire un mariage, juste avant le mariage, Laura va demander au Khatan, est-ce que cette bague a la valeur d'une pruta? Les témoins aussi vont affirmer qu'elle a la valeur d'une pruta. Donc, on vérifie une valeur minimum, c'est une pruta. On voit ici que avec un non-juif, on peut faire même dans une valeur qui est plus petite qu'une pruta, celle même moins qu'une pruta. Elle a une importance. Mais Amar, deuxième preuve. Un non-juif qui a volé, il n'a pas, comme un juif qui a volé, l'obligation de Veshiv et Akzela. Il n'a pas la possibilité d'arranger son acte, de venir en arrière, de faire tchouva. Il est Chayav Mita. S'il a volé même moins qu'une pruta, il est Chayav Mita. Donc on voit que, d'après tout le monde, un non-juif et une moins qu'une pruta, c'est défini comme de l'argent. Donc c'est sûr que quand on te demande de faire un acte de location par rapport au non-juif, on pourrait se suffire de moins qu'une pruta. Et donc il est impensable d'expliquer que la marque loquette entre bonne location et mauvaise location, c'est est-ce qu'il faut une pruta ou moins, puisque d'après tout le monde, même moins qu'une pruta, ça devrait être bon. Donc quel est le fond de la marque loquette? Et là, Bria, et qu'est-ce qui s'appelle une bonne location? Je viens chez le non-juif et je lui dis, je veux louer. Vous voulez louer quoi? Bah, j'aimerais déposer des chaises, des bancs, etc. Donc vraiment, il veut s'installer. Réoua, Bélomoarkevourgane. Je dis, non, non, on ne va pas vraiment louer, on ne va pas rien faire de spécial dans le terrain. On veut acheter un droit par rapport à notre Shabbat. Agmar nous dit, maintenant, l'acquisition, c'est quoi? Tu me dis que tu les as obligés de louer et que tu es sûr que le goy ne va pas louer. Donc, en fin de compte, le juif ne pourra pas porter. Et c'est ça qui va lui décider de s'éloigner de cet endroit. Et donc, il ne va pas habiter avec un non-juif. C'est pas vrai. Si tu me dis qu'il faut faire une location bria, c'est-à-dire s'installer tous les Shabbats dans la cour, mettre des bancs, des chaises, etc., je comprends que le non-juif ne va pas louer. Et là, mais celui qui te dit que même une mauvaise reroute, c'est-à-dire, on peut faire. C'est symbolique, c'est une location symbolique. Alors, pourquoi est-ce que le goy ne louerait pas? Il va recevoir de l'argent pour rien. Pourquoi est-ce qu'il va pas louer? Comme on nous dit, à filo achich hachach akum kishfafim velo mugar. Le gars, il va pas comprendre. Il dit, ça veut dire quoi? Tu loues, mais en fait, tu l'utilises pas. Il va dire, bon, c'est de la sorcellerie, ces histoires. Il préfère ne pas louer. Donc, on conclut la première marloquette de notre Mishnah. Rabbi Meir et Rabbi Eliezer. Tous les deux sont d'accord qu'en vérité, un goy n'est pas problématique, ne crée pas un problème de transport pendant Shabbat dans le même Katser. On ne fait pas cas de sa présence par rapport à la définition de l'utilisation de ce Katser. Est-ce qu'elle est publique ou pas? Alors, pour quel est le problème? puisque tu habites avec un non-juif et que le fait d'habiter avec lui au fur et à mesure, tu risques d'apprendre la même façon de se conduire que lui, en d'autres termes, ne pas se conduire comme la Torah, on a voulu t'éloigner. Donc on va te dire, tu ne pourras pas habiter avec lui. Pourquoi ? Tous les Shabbats, tu vas être bloqué. Mais non, la marloquette, elle est entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar ben Yaakov. D'après Rabbi Meir, même avec un non-juif, ça peut arriver que tu habites en location. Donc c'est courant. Donc on t'interdit, même quand tu es face à un seul non-juif. D'après Rabbi Elazar ben Yaakov, il faut qu'il y ait deux juifs. Il faut qu'il y ait. Pardon. D'après Rabbi Meir, seulement quand il y a. D'après Rabbi Meir, même un seul, et d'après Rabbi Elazar ben Yaakov, deux juifs. Donc, à partir du moment où c'est interdit, on a une marloquette, quand est-ce que c'est interdit ? Est-ce qu'un juif ou deux juifs ? Et à partir du moment où c'est interdit, on ne peut pas utiliser les systèmes normaux, à savoir Irouv ou Bitoul Shutfut, c'est-à-dire se retirer, il faut louer. Qu'est-ce qu'il faut louer ? Marloquette et Moraim. Est-ce qu'il faut louer avec le droit d'utilisation ou c'est une location symbolique ? La Gemara passe à un autre sujet. Goufa. Donc la maison d'un non-juif est définie comme un enclos animal, comme je l'ai dit, on ne le prend pas en considération comme utilisation publique. Un juif vient dans ce chatser pendant le Shabbat, et le non-juif, son ami lui demande, tu peux m'aider à transporter les choses de la maison au chatser? Il peut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune différence de propriété, même s'ils sont 50 000 goïms à habiter dans le même chatser, on les considère comme une entité. Mais à partir du moment où il y a un seul juif, Oser. Là, ça devient interdit. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Elazar ben Yaakov Omer. Le'olam eno oser. Atchusham shnei Yisrael osrim ze al ze. Quand est-ce que ça sera interdit? Seulement quand on aura deux juifs qui habitent dans cet endroit. La Gemara pose une question à Marmar. Chatzero shel akumaru kedir shel behemah. Quand tu me dis au départ, le titre c'est que la maison d'un juif n'est considérée comme rien du tout. Donc ça veut dire que on le prend pas en considération. Et donc dans ce cas-là, ça voudrait dire que. Si jamais le juif lui-même qui habite dans le chatser avec un non-juif aimerait transporter de sa maison vers le chatser, puisque je ne prends pas en considération la maison du non-juif, donc le juif pourrait porter de sa maison au chatser. Pourtant, c'est marqué que si j'habite avec un non-juif, je n'ai pas le droit de porter de ma maison au chatser. Donc, est-ce que quand on dit je considère que la maison du non-juif, c'est comme si elle n'était pas là, apparemment c'est faux. Pourquoi c'est faux ? Puisque moi, dans la Mishnah, chez nous, c'est marqué, si j'habite avec un non-juif, j'ai pas le droit de porter dans mon chatser. Avec ma réponse, lokashé, adéité, adélaïté. Ça dépend si le non-juif est présent ou pas. S'il est présent, alors j'ai pas le droit de porter de mon chatser à la maison. Mais s'il n'est pas présent, alors j'ai le droit de porter de mon chatser à la maison. Ou vice-versa. Maïka Savar, la Gemara explique tout de suite pourquoi. Ika Savar, Dira Belobalim, une maison qui se trouve sans ses propriétaires pendant Shabbat, Shema Dira est définie comme une maison, Afilo Akumna Menitsar, même. La maison d'un non-juif quand il n'est pas présent. Sachant que quand il est présent, il me rend interdit le transport. Quand il n'est pas présent, ça devrait être aussi interdit. Vika Sava, dira Belobalim, Loshma dira, si jamais tu penses de l'autre côté que c'est défini comme si ça n'était pas une maison quand je ne suis pas là, Afilu Israël, Namel, on dit ça. La Braïta, quand elle te dit, quand il y a un non-juif, une maison d'un non-juif, ce n'est pas un problème, ça sous-entend qu'une maison d'un juif, c'est un problème. Et si on parle d'un cas où le non-juif n'est pas là, ça voudrait dire que dans un cas où j'ai deux maisons de juifs et le non-juif n'est pas là, et le juif est là, donc ça cause un problème. Je ne comprends pas. Quelle différence entre être là ou ne pas être là ? Chez le non-juif, tu fais une différence entre être là et ne pas être là. Donc ça veut dire que la présence ou l'absence de la personne va définir est-ce que cette maison est une maison ou pas. Donc quand on a deux maisons d'un juif dans le même chatser et le juif n'est pas là, on devrait aussi considérer comme si la maison n'existait pas. On devrait avoir le droit de porter. Quelle différence entre un juif et un non-juif ? Imagine comme ça. Quand je ne suis pas là, ma maison n'est pas considérée comme une maison qui va m'interdire le transport. Je vais considérer que celui qui est resté est le seul à utiliser ce chatser. Et donc, il a le droit tranquillement de sortir de son chatser vers là-bas, puisqu'il est le seul à utiliser l'endroit. Mais, Israël, l'Echilité Assar, le Israël, quand il se trouve ici, il interdit. Pourquoi il interdit? Mais Ikaradin, c'est l'idée du héros, on est plusieurs à utiliser. Qu'il a été, quand il n'est pas là, Gazrou Berabanan, Rachamim ont interdit, même s'il n'était pas là, comme s'il était là. Maintenant, Ovet Gochavim Dechiite, mais si le non-juif, quand il est là, en vérité, ça ne devrait pas interdire. Pourquoi est-ce qu'on a interdit? Pourquoi est-ce que ça ne devrait pas interdire? Parce qu'on ne considère pas sa présence. Mais pourquoi est-ce que ça interdit, Xerachem Aïl Madmina Sahav? C'est seulement un interdit, Midera Banan, de peur que le juif vienne à s'habituer, à côtoyer et à se conduire comme un non-juif. Donc c'est déjà un interdit lointain qui était. Assar, qu'il était là, Assar. Quand il est là et qu'il y a le risque que tu apprennes de sa conduite, alors on t'a interdit. Quand tu n'es pas là, quand il n'est pas là, alors on n'a pas interdit. Avec ma demande, il est à l'Assar, et quand il n'est pas là, ce n'est pas interdit, pourtant c'est marqué. À manière que le béto, on l'a vu ensemble cette Mishnah, on l'a vu ensemble dans la Gemara, Donc on voit que si jamais j'ai quitté ma maison pendant Shabbat, que ce soit un juif ou que ce soit un non-juif, on considère que c'est comme si tu étais présent et c'est interdit. Donc on voit qu'on ne fait pas de différence. Même si tu es absent et même si c'est un non-juif, c'est comme si tu étais là. La Gemara nous répond, et c'est les paroles de Rabbi Meir qui est l'auteur de notre Mishnah, la Gemara nous répond, Atam, Deate Beyomé. Là-bas, on parle d'un cas où il est possible que le non-juif revienne, c'est pour ça que c'est interdit. Donc résumons cette partie-là. La Gemara nous dit que, d'après Rabbi Meir, à partir du moment où il y a un juif, pardon, il y a un non-juif qui habite avec moi, s'il n'est pas là tout le Shabbat et il n'y a aucune chose qui vienne, alors je ne le considère pas du tout. Mais s'il est là, il y a un risque qu'il vienne, s'il est là, ou alors il n'est pas là, il y a un risque qu'il revienne pendant Shabbat, c'est interdit de porter tant que je n'aurai pas fait de Sriout. La Gemara pose une question, ramène Amar Yehuda. Moi, l'Alakha est Rabbi Eliezer ben Yaakov. L'Alakha est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est-à-dire deux juifs et un non-juif, mais non pas un juif et un non-juif. Avuna Amar, Minak Rabbi Eliezer. Si jamais quelqu'un vient te poser la question en privé, tu peux le dire, mais ne pas enseigner en public. Avuna Amar. La Guam, Rabbi Eliezer ben Yaakov. On n'a jamais tranché, les gens ont pris l'habitude de faire comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. On leur a jamais dit de ne pas faire le contraire. Amar l'Abaye le Rabbi Yosef à ce sujet-là. Kaimalan, Mishnat Rabbi Eliezer ben Yaakov, Kav Venaki. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Kav Venaki. Kav, c'est une petite mesure. Donc les enseignements de Rabbi Eliezer ben Yaakov ne sont pas nombreux. Mais les seuls enseignements qu'on a de son nom, c'est Naki, c'est propre. Et la Lacha est comme lui. Et ça, c'est quelque chose qui est connu de tout le monde. Amar, évidemment, je parle de la Lacha Rabbi Eliezer ben Yaakov. À part ça, on a une précision qui est marquée ici que la Lacha est comme lui. Donc c'est vraiment clair que la Lacha est comme lui. Maoule Rouye Bimkom Rabo, est-ce que un élève pourrait enseigner et répondre à une question qui est liée à ça devant son maître? Un élève n'a pas le droit d'ouvrir la bouche devant son maître. Il n'a pas le droit de donner son avis devant son maître. Quand on vient poser la question à son maître, il n'a pas le droit de répondre lui-même, même si on lui pose la question à lui directement, il doit laisser son maître répondre. Quand c'est une halakha qui est établie, est-ce que l'élève aurait le droit de répondre devant son maître? Amarle et Rabbi Yosef a répondu à Baye, « Afilu biata bekutra baimine merafriza kolche d'aravuna ». Il y a un œuf dans du lait, c'est sûr que c'est moutard. Et pourtant, j'ai toujours posé la question de Hara Frisda, qui était l'élève de Ravuna. Et toute la vie de Ravuna, j'ai posé la question de Hara Frisda, devant Ravuna pour savoir si on avait le droit. Vélo aurait, et Hara Frisda ne m'a pas répondu. Donc de là, je comprends que même une halakha qui est établie, un élève n'a pas le droit d'enseigner devant son maître. Amar le Rabbi Yaakov Barabbaye, Kegon Megillat Ta'anit, dire Tevoa Mancha, Megillat Ta'anit, c'est un endroit où il y a marqué tous les jours, on a le droit de jeûner tous les jours, on n'a pas le droit de jeûner. Maouleroué Batre de Rabbi, est-ce qu'on a le droit de répondre à une question qui m'a été posée dans la ville de Mourav? Amarle, Yahri Amar Rav Yosef, Afilou, Biata, Bekotra, Baimine, Marafriza, Kolchida, Ravuna, Vélo Rouré. Donc on a eu la même question. Une halakha qui est établie, est-ce qu'on a le droit de répondre dans la ville de son maître? Et il lui a ramené la même histoire. J'ai toujours posé la question à Rafrizda, toutes les années de Ravuna. Donc Rafrizda était l'élève de Ravuna. Et Rafrizda ne m'a jamais répondu. Donc je comprends qu'on ne peut pas donner son avis dans la ville de son maître, du vivant de son maître. Rafrizda, par contre, la Gemara nous dit, Rafrizda, qui était l'élève de Ravuna, aurait Bekafri. Il était, oui, posé Kalacha quand il était à Kafri, Bishnet de Ravuna, même du vivant de Ravuna. Ravamuna aurait Becharta de Argaz. Ravamuna, lui, était posé Kalacha, c'était l'élève de Rafrizda, dans une ville qui s'appelait Charta de Argaz. La ville s'appelait Argaz, Charta, c'est la ville. Bishnet de Rafrizda, dans le du vivant de Rafrizda. La Gemara va continuer sur ce sujet. Je m'arrête là et je résume. Dans notre Mishnah, on a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Eliezer ben Yaakov. Un juif qui habite avec un non-juif, est-ce qu'il est interdit de transport ou pas? D'après Rabbi Meir, il est interdit. D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, il n'est pas interdit tant qu'il n'y aura pas de juif. Dans la Mishnah, en sous-entendu, on a appris qu'il y a plusieurs techniques de surmonter le problème de transport qui a été créé Midera Banan. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le Hérouv nous rend la chose plus compliquée. On doit faire une location. L'Agmara va ramener Machloket, est-ce que c'est location symbolique ou location technique, c'est-à-dire vraiment louer et s'installer dans l'endroit. Ça, c'est quand c'est un non-juif ou quelqu'un dont la conversion n'est pas à 100% bonne. Quand c'est un juif, on a une Machloket avec une histoire de Rabban Gamliel. Est-ce qu'on considère qu'il peut faire le retrait de propriété, mais si jamais il le fait avant que je fasse acquisition du Khatser, si jamais il annule son retrait de propriété avant que je fasse acquisition du Khatser, c'est annulé. Et s'il le fait après, on a une marloquette, c'est-à-dire il a retiré sa propriété, je suis venu utiliser le Khatser pendant Shabbat, et après il décide il annule son retrait de propriété. Marloquette, est-ce que son annulation est prise en considération ou pas? La Gemara explique la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Eliezer ben Yaakov et de savoir est-ce que l'interdit qui a été créé face à un non-juif, bien qu'un non-juif normalement n'aurait pas dû créer de problème de transport, mais ça a été créé pour éloigner le juif d'être voisin d'un non-juif, est-ce que c'est seulement dans le cas qui est très courant de juifs habitent avec un non-juif, ou est-ce que c'est dans le cas qui est moins courant quand un juif habite avec un non-juif? La Gemara nous ramène que quand le non-juif ne se trouve pas dans le Khatser, même Rabbi Meir est d'accord qu'il n'y aura pas de problème dans ce Shabbat-là, mais à condition qu'il est suffisamment loin pour qu'il ne revienne pas pendant le Shabbat. S'il est là dans le Khatser, alors, ou s'il a la capacité de revenir, alors ça devient interdit d'après Rabbi Meir. La Gemara nous ramène aussi que l'Alakha est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, puisque Kavenaki, c'est-à-dire il a peu d'enseignements, mais l'Alakha est comme lui. La Gemara ramène aussi une question, est-ce qu'un élève a le droit d'enseigner la halakha devant son maître et conclut que l'élève n'a pas le droit de le faire, mais il a le droit de le faire du vivant de son maître dans une autre ville. À demain, Bezrat Hashem, n'oubliez pas de faire Hazara.